Il y a, oh, il y a 2 ans à peu près, on a une petite église à Saint-Gaudens qu'on a commencé avec quelques amis, et il y a 2 ans, on a formé le projet de faire une conférence par mois sur un sujet d'actualité, ou un sujet qui préoccupe les gens. Et non pas de faire un message de partant de la Bible, mais partant d'un sujet qui intéresse les gens. Et donc, justement, en moi, on a fait la conférence sur le sujet « Comment trouver le bonheur ?» Et vous êtes bien d'accord avec moi que le bonheur, ça intéresse absolument tout le monde. Personne ne dit « Je cherche à être profondément malheureux, c'est comme ça que je me sens bien, le bonheur, je n'en veux pas. » On n'a jamais entendu une telle phrase. Alors nous allons parler du bonheur, mais nous allons parler aussi de ce que la Bible dit, comment trouver le bonheur. Mais on ne va pas parler uniquement de la Bible. Il y a des choses dans notre vie qu'on peut faire qui peuvent nous rendre plus heureux. Et donc parfois les chrétiens même, ils devraient avoir le bonheur en Jésus-Christ, mais ils ne font pas ce qu'il faut, humainement parlant, pour vivre dans le bonheur. Donc il y a quelques conseils que vous entendrez ce matin. En tout cas, le bonheur fait partie des principales préoccupations de l'homme. Selon un auteur américain du 19e siècle, et je cite, « Le bonheur est un papillon qui, poursuivi, ne se laisse jamais attraper, mais qui, si vous savez vous asseoir sans bouger, sur votre épaule, viendra peut-être un jour se poser. » Il y a, on voit toute l'incertitude de trouver le bonheur. Selon la sagesse orientale, et je cite Lao Tzu, il a dit « Il n'y a point de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. » Autrement dit, vous n'allez pas arriver à un point où vous dites « Ça y est, je l'ai saisi, c'est en marchant qu'on trouve le bonheur. » La Bible dit, psaume 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et là, on voit le fait de vivre dans la présence de Dieu, c'est la source du bonheur. Dans cette conférence, donc, nous regarderons quelques définitions du bonheur. Le bonheur dans l'histoire, parce qu'on en a beaucoup parlé au long de l'histoire. Les facteurs qui contribuent au bonheur, là vous allez voir quelques conseils. Et le bonheur selon la Bible. Alors, est-ce que je peux vous souhaiter, en écoutant cette conférence, de trouver beaucoup de bonheur? Je pense que oui. Quelques définitions du bonheur, je vous en citerai 2. Selon le dictionnaire Quillet, le bonheur est un événement heureux, une chance, un hasard favorable. C'est un état moral de bien-être et de satisfaction, de félicité. Dans cette définition, on ressent que le bonheur est un peu le fruit du hasard. Vous tombez dessus et comme ça, vous découvrez le bonheur. Dans Wikipédia, vous connaissez cette encyclopédie Internet. Il dit, le bonheur, à l'origine, voulait dire la bonne fortune. C'est un état durable de plénitude et de satisfaction. C'est un état agréable et équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, l'inquiétude et le trouble sont absents. Donc si ce matin vous êtes là, vous dites, je ne souffre pas, je ne suis pas inquiet, je ne suis pas troublé, et ça dure depuis un certain temps, dire, je pense que j'ai trouvé le bonheur, j'ai bonne fortune. Le bonheur dans l'histoire. Épicure, dont vous avez entendu parler sans doute, ce philosophe grec du 3e siècle avant Jésus-Christ, disait que le bonheur est le plaisir en repos dans l'âme, ou la sérénité. Il dit que le bonheur naît spontanément de la satisfaction de nos besoins naturels et nécessaires, dont la sécurité, la santé, la sagesse et l'amitié. Il disait qu'il est impossible d'être heureux sans être sage. Une perle de sagesse. Blaise Pascal, ce mathématicien, philosophe et chrétien du XVIIe siècle, il disait ceci: tous les hommes recherchent d'être heureux. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes. Et cependant, depuis un si grand nombre d'années, jamais personne, sans la foi, n'est arrivé à ce point que tous visent continuellement. Pour Blaise Pascal, il fallait avoir la foi pour connaître le bonheur. Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, explique le chemin pour se libérer des souffrances dues aux passions. Donc nos passions engendrent des souffrances, et à vivre dans le bonheur par plus de sagesse. Spinoza disait: le bonheur consiste à bien agir et être dans la joie. C'est une définition assez biblique: bien agir et vivre dans la joie pour connaître le bonheur. Emmanuel Kant, philosophe du XVIIIe siècle, croyait que l'homme doit faire son devoir parce que la loi l'exige, et non pas pour être heureux. Pour lui, le bonheur est l'état dans le monde d'un être raisonnable, à qui, dans tout le cours de son existence, tout arrive suivant son souhait et sa volonté. C'est quelqu'un qui fait toujours ce qu'il faut par devoir, et ce qu'il a décidé arrive, c'est le bonheur. Nietzsche, c'est un philosophe allemand qui disait que Dieu est mort. Il disait: pour avoir le bonheur, il fallait savoir oublier le passé, jouir du moment présent et ne pas penser à l'avenir. Il disait: celui qui s'efforce de se souvenir de tout son passé va ruminer son passé et ne vivra jamais le bonheur du moment présent. Donc pour Nietzsche, évidemment, qui disait que Dieu est mort, à quoi bon préparer l'avenir, à quoi bon penser au passé? Vivons uniquement l'instant qui passe. Dans la philosophie, pendant très longtemps, on ne se préoccupait pas du bonheur, on n'en parlait pas. On cherchait la vérité, où on réfléchissait sur la science. Mais en philosophie, plus récemment, puisqu'on est de plus en plus conscient de nous-mêmes, l'homme un peu est centré sur lui-même, mais on essaie d'être plus pratique, plus terre-à-terre, et tiens, le bonheur, comment est-ce que je peux l'avoir? Et donc, on a développé l'éthique. C'est le bien agir, c'est le bien penser, c'est le bien vivre. C'est une recherche d'une sagesse pratique et au quotidien pour favoriser le bonheur en connaissant les principes qui le suscitent et qui le maintiennent. Aujourd'hui, on recherche, on parle avec les hommes et les femmes et on dit: mais êtes-vous heureux? Et selon vous, qu'est-ce qui a contribué à ce bonheur? Et qu'est-ce qui peut prolonger votre bonheur? Et quels sont les facteurs qui ajoutent à votre bonheur? On fait des sondages, on tire des conclusions et on donne des conseils aux gens. Voilà, la plupart des gens ont trouvé que ça donne le bonheur. Essayez, et peut-être ça donnera aussi du bonheur pour vous. En psychologie, les avis sont partagés. Alors Freud, qui n'est pas vraiment un maître pour moi, c'est pas quelqu'un qui a donné beaucoup de bonnes pensées, et le pauvre, il considérait que l'homme avait une sexualité psychique insatiable, et cela amenait une tendance à l'autodestruction. On n'est pas sans savoir que Freud lui-même s'est suicidé, peut-être prisonnier de ses propres théories. Il a fini dans la folie. Donc pour Freud, le bonheur est définitivement inaccessible. Lacan, un autre philosophe, a étudié le principe du manque, c'est des psychologues. Il dit: si on est toujours en manque, on ne peut jamais connaître le bonheur. Évidemment, si on est toujours en manque, on n'est jamais heureux. Par contre, bien d'autres psychologues comme Jung disaient que le bonheur est le sentiment naturel qui éprouve notre psychisme humain lorsque on s'épanouit d'une manière intégrée dans une culture fondée sur l'amour et l'être. Autrement dit, si vous vivez dans un contexte d'amour où on réfléchit à vous, on pense à vous, vous pensez aux autres, vous allez connaître un certain bonheur. En politique, le Le bonheur, c'est relativement récent. Le bonheur a été mentionné pour la première fois en politique au XVIIIe siècle dans la Déclaration d'indépendance aux États-Unis. L'article 1 de cette déclaration précise, et je cite, « Tous les hommes sont par nature libres et indépendants et ont certains droits inaliénables. Jouir de la vie et de la liberté, avoir les moyens d'acquérir et de posséder la propriété et poursuivre et obtenir le bonheur et la sécurité. » C'est la première phrase de cette déclaration d'indépendance. La même chose est dite dans la Constitution qui dit « Tous les hommes ont été créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » C'est quand même intéressant que ces pères fondateurs de ces 13 colonies au Nouveau Monde se mettaient à genoux pour prier le Dieu suprême pour la sagesse avant d'écrire leur déclaration et avant d'écrire leur constitution. En 1794, à la Révolution française, cette idée du bonheur a traversé l'océan. C'est Saint-Just qui dit « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Intéressant. Au début des années 1960, certains d'entre nous étaient déjà vivants à ce moment-là. Au début des années 60, avec la croissance économique, les foyers se sont équipés de matériel, comment ça s'appelle, électrique, électroménager, voilà, électroménager, et on a découvert aussi les congés payés, à la sortie de la dernière guerre, et on a commencé à avoir un peu de loisirs, ce qui n'était pas le cas auparavant. Beaucoup croyaient que cette prospérité nouvelle répondrait aux attentes de tous les citoyens. Et cela a donné naissance à un courant politique critique. Certains disaient, oui, bon, mais tout le monde pense que les appareils électroménagers vont apporter le bonheur aux citoyens, mais la croissance matérielle et économique ne peut jamais apporter le bonheur aux êtres humains, on disait. Un autre courant, encore plus radical, disait que la société de consommation, en créant sans cesse de nouveaux désirs, ne pouvait jamais permettre l'accès au bonheur. Alors vous avez certains qui disent on aura plus de temps libre, on aura plus d'équipement, on aura plus de bonheur. D'autres disent non, plus on en a, plus on en veut. Donc la société de consommation n'apportera jamais le bonheur. À la fin de ces années 60, bien sûr, vous vous souvenez de 1968. Et donc la mentalité de 1968 disait, ce n'est pas dans la consommation, dans le consumérisme, qu'on va trouver du bonheur. On va trouver d'autres formes de bonheur, à travers les rencontres entre les hommes. Un mode de vie collectif, c'était les fameux hippies qui partaient à la montagne, élever des chèvres, vous savez, être près de la nature, rechercher ses racines. Une vie plus simple, plus dégagée de contraintes, la pratique de différents arts, l'art, le dessin, la musique. Le gars au coin de la rue avec la guitare, les cheveux longs, disant « Je trouve le bonheur, je ne suis pas dans le moule, je vis ma vie, je suis indépendant. » Cette alternative donc s'est imposée aussi à la société de consommation. On a commencé à bâtir des publicités comme le film « Le bonheur » et « Dans le pré ». En 1972, le roi du Bhoutan, alors le Bhoutan c'est un petit pays situé entre l'Inde et le Tibet, il a tenté, le président du pays, le roi a tenté d'imposer la notion du bonheur national brut. On a c'est le produit intérieur brut, il disait le bonheur national brut, par opposition au plus restrictif produit intérieur brut, qui ne prenait en compte que la richesse matérielle du pays. Il voulait voir que ses citoyens eux-mêmes seraient heureux. Voilà le bonheur un peu au cours de l'histoire. Maintenant, il y a des facteurs qui contribuent au bonheur. Il y a des choses qu'on peut faire et des attitudes qu'on peut avoir qui vont nous rendre plus heureux dans le quotidien. plusieurs équipes de chercheurs ont essayé de rationaliser et de quantifier le bonheur à l'échelle des nations. C'est-à-dire, on voit dans quel pays les gens sont les plus heureux. Des chercheurs à l'université de Rotterdam ont établi un classement mondial de bonheur pour la période de 1995 à 2005, donc sur 10 ans, à partir de 953 indicateurs. Vous avez des indices, on mesure tous les pays par ces indices pour trouver qui est le plus heureux. Les 5 pays, ça va vous intéresser. Les 5 pays les mieux placés sur l'échelle du bonheur dans le monde sont le Danemark, la Suisse, l'Autriche, l'Islande, malgré les volcans, et la Finlande. Les Français sont arrivés en quelle position d'après vous? 39e position dans ce classement. Le psychologue britannique Adrian White de l'université de Leicester a établi en 2007 une carte mondiale du bonheur basée sur 5 critères. La santé, la richesse, l'éducation, l'identité nationale et la beauté des paysages. En 2008, c'est le Danemark, décidément, on va y déménager, hein, c'est le Danemark qui arrive en tête du classement. Selon le quotidien Libération, et je cite, « La France a beau afficher d'excellents résultats dans toutes les catégories, elle ne se classe qu'en 62e position. » Et vous croyez qu'on était heureux, hein? On est heureux, plus heureux que beaucoup, mais apparemment pas aussi heureux que certains. Selon cette recherche, il y a 4 conclusions. D'abord, une hausse des revenus n'augmente pas nécessairement le bonheur. Alors que vous qui attendiez votre hausse de salaire pour être heureux, pouvez faire une croix dessus, même si vous l'avez, ça ne vous rendra pas nécessairement plus heureux. Les inégalités sont un facteur d'insatisfaction. Le Danemark est l'une des sociétés les plus égalitaires au monde. Une micro-société où règne la confiance est essentiel au bonheur. La Suisse est arrivée en 2e position. Apparemment, ils sont confiants les uns dans les autres. Il y a aussi le lien social. C'est un facteur qui contribue beaucoup au bonheur. Le maire de... Alors, je vais écorcher le nom. Le maire de Ringkøbing. Et ne vous moquez pas, parce que c'est la ville la plus heureuse du Danemark. Le maire de cette ville a dit, ici, tout le monde se parle, peu importe son statut social. Ce qui est important, c'est le temps passé avec sa famille et ses amis. Depuis 1998, l'Association des psychologues américains étudie les facteurs qui constituent le bonheur. Parmi ces facteurs qui n'apportent pas le bonheur, donc les facteurs qui ne vous rendront pas plus heureux, ils disent qu'une fois que les besoins de base sont satisfaits, une augmentation de revenus n'apporte pas le bonheur. Donc, on voit bien, et comme on dit en français, l'argent n'apporte pas le bonheur, mais c'est vrai. Ni une grande instruction, ni une grande intelligence n'apporte le bonheur. Ça va choquer peut-être plusieurs ici. La jeunesse n'apporte pas le bonheur. Les personnes les plus âgées sont plus satisfaites de leur vie que ne le sont les jeunes. Les personnes entre 20 et 24 ans sont tristes 3,4 jours par mois, tandis que les 65 à 74 ans sont tristes que 2,3 jours par mois. Donc vous les amis, vous avez un jour de bonheur par mois de plus que les jeunes. C'est pas mal, hein? Alors on a regardé les gens mariés et les gens célibataires. On a dit les gens mariés semblent être plus heureux que les célibataires. Mais c'était peut-être parce qu'ils étaient déjà plus heureux avant de se marier. Et pour vous, à Perpignan, j'ai désolé de vous décevoir, mais le soleil ne contribue pas au bonheur. Ça choquant quand même, hein? Par contre, il y a des facteurs décisifs du bonheur. Premier facteur, une foi religieuse. Mais on ne sait pas si c'est Dieu ou la communauté religieuse qui est déterminante dans l'affaire. Ça, c'est des psychologues qui font. Hein, c'est une foi religieuse rend les gens plus heureux. Un grand atout du bonheur, c'est les amis. Les amis sont un facteur de bonheur. Selon une autre étude, parmi les activités qui procurent du bonheur figurent plusieurs choses. Parler avec des amis, se détendre, la prière ou la méditation sont un facteur du bonheur, manger, évidemment, l'exercice physique apporte le bonheur, la télé, un peu. Mais très bien plus bas sur la liste, il y avait s'occuper des enfants. Normalement, on dit s'occuper des enfants, c'est le bonheur. Mais les gens qui s'occupent des enfants ne disent pas être spécialement heureux. Aussi, dans le psychisme humain, on fait une distinction entre le moment présent, ce que l'on vit actuellement, et le souvenir des moments passés. Les gens, quand ils s'occupent de leurs enfants, disent de ne pas être spécialement heureux sur le coup. Mais après, quand les enfants sont grands et dans la globalité, ils disent que leurs enfants leur ont apporté beaucoup de bonheur. Aussi, quand on part en vacances, on peut être frustré pendant certains moments de ces vacances. Mais si on nous demande comment les vacances se sont passées, on va se souvenir des bons moments et le souvenir sera très positif. On dit aussi, si la fin d'un événement est positive, on en gardera un bon souvenir et on éprouvera du bonheur en se souvenant de cette activité passée. Mais notre bonheur échappe à notre contrôle. On n'arrive pas à le contrôler. Sur une étude faite sur 4000 paires de jumeaux, on a trouvé que 50% de notre bonheur dépend de notre nature. C'est-à-dire une personnalité joyeuse, les gens qui traitent bien le stress, qui savent l'évacuer, des gens qui ont peu d'anxiété ou de dépression. Les facteurs comme le revenu, être marié ou non, la religion ou l'éducation ne contribuent que 8% du bien-être. Le reste dépend des circonstances, des joies et des peines. Et l'étude intéressante sur les jumeaux, c'était qu'on pouvait penser qu'ils avaient les mêmes chromosomes, qu'ils étaient identiques à tout point de vue, et bien là, il était souvent plus heureux que son jumeau. Donc, ils sont quand même bien différenciés. Nous avons tendance, un peu comme, vous savez, quand on a un ordinateur et puis on pousse le bouton reset et on revient à un moment donné dans la mémoire de l'ordinateur, nous avons aussi tendance à revenir à un point déterminé de notre passé, quelles que soient les circonstances, qu'elles soient merveilleuses ou horribles. On a un point à peu près fixe de notre disposition. On peut passer par les moments très profonds et on revient à ce point fixe ou par les grandes joies, mais on finit par revenir à ce point globalement fixe. Les enfants asiatiques qui retournaient à l'école après la tsunami étaient, contre toute attente, étaient joyeux. Selon une étude faite en 1978 sur les gens qui avaient gagné au loto, les gens donc gagnaient au loto, montraient qu'ils n'étaient pas plus heureux que ceux qui n'avaient pas gagné. Ça c'est pour vous consoler si vous n'avez jamais gagné au loto, ça ne vous rendra pas plus heureux. Même des gens qui sont devenus paraplégiques, donc perdu l'usage des quatre membres, suite à un accident. Une semaine après l'accident, ils étaient anxieux et en colère. Mais 2 mois plus tard, leur émotion la plus fréquente était le bonheur. Cela s'appelle la capacité d'adaptation. L'humain a une merveilleuse capacité de s'adapter à de nouvelles circonstances. Et alors, des gens qui s'occupaient d'eux ont dit ceci, et je cite, « Tout le monde est surpris à quel point les paraplégiques peuvent être heureux. C'est parce qu'ils ne sont pas paraplégiques tout le temps. » Ils aiment manger, pensent à ce qu'ils mangent, pensent pas à des trucs qui sont paraplégiques. Ils aiment parler à leurs amis, ils lisent le journal, ils ne portent pas leur attention tout le temps sur leur handicap. Ils vivent leur vie, ils s'occupent d'autre chose. Et donc, ça ne les trouble pas plus que ça. 2 facteurs font baisser le niveau de bonheur durablement. Et ceci peut vous aider. Si vous avez connu un de ces facteurs-là, la perte de son conjoint peut faire baisser le taux du bonheur pendant une longue période, ou la perte de son emploi. Il faut 5 à 8 ans pour un veuf ou pour une veuve de retrouver son sens de bien-être après avoir perdu son conjoint. Et nous, dans nos églises, nous devons être conscients de cette souffrance. Mais même la perte d'un emploi, la déception de la perte d'un emploi dure longtemps après avoir retrouvé un autre emploi. Ça paraît curieux, mais c'est quelque chose qui reste longtemps dans le psychisme. Il y a 3 exercices qui font monter le niveau du bonheur. Si vous voulez avoir plus de bonheur, faites ces 3 choses. Tenir un journal de gratitude, où vous notez les choses sur lesquelles vous êtes reconnaissant. Cultiver la reconnaissance améliore la santé physique, fait monter le niveau d'énergie et soulage la douleur et la fatigue chez ceux qui ont des maladies neuromusculaires. Comme quoi, on n'est pas que corps, notre psychisme agit sur notre corps. La deuxième chose, c'est faire des actes de gentillesse. Visiter quelqu'un dans une maison de retraite, aider l'enfant d'un ami avec ses devoirs, tondre la pelouse du voisin, écrire une lettre à un grand-parent. C'est des choses qui procurent un bonheur. Mais les psychologues, dans ce sondage et dans leurs recherches, ont trouvé l'acte ultime qui procure un bonheur incroyable. C'est écrire une lettre de reconnaissance et de gratitude à quelqu'un à qui vous devez beaucoup, puis lui rendre visite et lui lire la lettre. Les gens qui ont fait ça, même un mois après avoir fait cela, leur bonheur était encore palpable. En somme, être en relation positive avec les autres est le plus grand facteur humain du bonheur. Je le répète donc, être en relation positive avec les autres est le plus grand facteur humain du bonheur. Maintenant, parlons un peu du bonheur selon la Bible. En Deutéronome 30, versets 9 et 10, on peut lire quelques versets, on ne peut pas tous les lire, j'en citerai quelques-uns, mais en Deutéronome 30, versets 9 et 10. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc, vivre près de Dieu, obéir à ses commandements, les mettre en pratique, était la clé du bonheur et de la bénédiction spirituelle et matérielle de Dieu envers le peuple d'Israël. De Chroniques 6:41, c'est Salomon qui prie devant le temple de l'Éternel pour la dédicace, et il demande à l'Éternel de venir dans le temple qu'il avait construit. Et quand Dieu vient dans ce temple et manifeste qu'il est présent parmi son peuple a éprouvé une très grande joie. Savoir que Dieu vit en nous et que nous vivons près de lui procure un très grand bonheur. La Bible dit pourtant, en Psaume 73, que même les gens méchants peuvent jouir d'un certain bonheur jusqu'au jour de la mort, bonheur matériel. Et les justes peuvent connaître le malheur. Mais dans l'au-delà, les méchants recevront leur châtiment et les justes seront dans la joie. Lisons en Psaume 32, psaume de David, où il confesse son péché, mais il dit dans les 2 premiers versets, Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Maintenant regardez ce qu'il a vécu avant ce bonheur. Verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Pour l'enfant de Dieu, une des plus grandes choses qu'il peut faire pour connaître un bonheur durable, c'est de confesser son péché à Dieu sans aucun détour, sans se justifier, sans le minimiser. Et l'une des plus grandes souffrances qu'un chrétien peut connaître, c'est la conviction du Saint-Esprit dans son cœur. Tu as péché, tu as fait ceci, tu dois le confesser, tu dois le mettre en règle. On peut refouler la voix du Saint-Esprit, on peut repousser cet appel, mais tant qu'on le fait, on est misérable. Quand on cède, quand on le confesse, quand on s'en débarrasse, quand on le regrette, quand on l'avoue, et quand on l'abandonne, on connaît un bonheur immense. Sur un plan pratique, dans les proverbes, le bonheur récompense les justes. Les gens qui vivent droitement auront beaucoup plus de bonheur que les gens qui sont tordus. Pour les célibataires, pensez à ce verset, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, pas n'importe laquelle, la femme que Dieu préserve pour vous. Celui qui garde l'intelligence pour la sagesse trouve le bonheur. Ça recoupe ce qu'avait dit Blaise Pascal. On ne peut pas avoir de bonheur sans être sage. Dans l'Ecclésiaste, c'est ce livre écrit par l'homme sous le soleil. Ce Salomon qui s'est éloigné de Dieu et qui n'avait pas trop d'égard pour Dieu quand il a écrit ce livre. Il dit, le bonheur est de manger et de boire et de faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Les simples joies de l'existence, un coucher de soleil, une marche à la campagne, un déjeuner entre amis, sont des joies de l'existence, ça procure un certain bonheur. Mais toutes ces joies-là viennent aussi de la main de Dieu. Le chrétien peut, devant un magnifique paysage, envoyer une prière de reconnaissance à Dieu. C'est toi qui as fait ce paysage, c'est toi qui me donnes ce bonheur. Ce bonheur de la simple créature humaine sur cette terre, c'est toi qui me donnes ces bonheurs-là aussi. En Ésaïe 42, on va lire ce verset aussi. Ésaïe 42 et verset 21. Ésaïe 42 et verset 21. Juste ce verset-là. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Est-ce que vous pensez que le bonheur peut être dans la loi de l'Éternel? La Bible dit oui. Dieu nous a donné ses commandements, ses lois, ses ordres, ses préceptes pour notre bonheur. Ça nous donne une boussole morale, ça nous donne, c'est le nord pour nous. Si on ne connaît pas la pensée de Dieu, on perd le nord, on tourne en rond et on ne pourra jamais connaître un vrai bonheur. Si vous regardez la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, les livres de Moïse notamment, vous verrez que la loi de Dieu inclut tous les facteurs mentionnés, que j'ai mentionnés tout à l'heure, comme des facteurs de bonheur. Une société homogène. Vous lisez un peu dans Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, vous avez des gens plus pauvres et des gens plus riches. Le plus pauvre pouvait s'endetter parfois. Mais s'il s'endettait de trop, il pouvait se vendre à un parent pendant 6 ans. Le parent payait toutes ses dettes en échange de son travail. Et la 7e année, il retrouvait sa liberté. Sans dette, il pouvait recommencer à zéro. Donc c'était un facteur d'égalisation dans la société. Si une veuve si elle était privée de son mari et qu'elle risquait de perdre l'héritage attaché à la famille de son mari, elle pouvait épouser un de ses beaux-frères qui n'était pas marié et pouvait susciter par sa postérité et garder la ferme dans les mains, etc. Il y avait toutes sortes de manières pour un pauvre de ne pas le rester et pour refaire une santé financière et pour maintenir la société israélite la plus homogène possible. Il y avait de l'amitié dans la loi de l'Éternel. Il disait, vous traiterez bien l'étranger qui est chez vous, parce que vous étiez autrefois des étrangers en Égypte. Vous traiterez bien le pauvre, vous vous occuperez de la veuve et de l'orphelin. Vous l'assurez quand vous irez moissonner vos champs, vous prenez grosso modo ce qu'il y a, mais vous laissez traîner de la nourriture dans vos champs pour les pauvres qui viennent de glaner gratuitement. Faites-le tous les 3 ans, vous prenez vos stocks et vous les mettez devant chez vous pour que les pauvres, les orphelins et les veuves viennent se servir. Donc il y avait toutes sortes de manières pour Dieu, dans sa loi, de faire du bien à ceux qui en avaient besoin. Personne n'était plus élevé qu'un autre. On se rendait service, on s'aimait, on prenait soin du pauvre et de l'étranger. Comme il a dit, ce sont des facteurs du bonheur. Quand il n'y a pas d'injustice, quand il n'y a pas d'inégalité. En Jérémie, nous avons un conseil pour éviter le malheur. Déjà, éviter le malheur, ça peut contribuer au bonheur, vous ne trouvez pas? Que dit-il? Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, croire en l'homme et ne plus croire en Dieu, c'est un facteur de malheur. Il dit, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Qu'est-ce qui est misérable quand on est dans un désert? La chose la plus misérable, c'est de voir des mirages. Et de dire, il y a de l'eau, il y a des palmiers, c'est pas loin, je vais pouvoir boire, je vais pouvoir boire, je vais pouvoir me reposer à l'ombre de ces palmiers. Et vous arrivez là, vous pensez aux dattes, vous allez pouvoir manger. Et puis, c'était un mirage, il n'y a que du sable à perte de vue. Il dit, c'est ça. Vous confiez dans l'homme, c'est voir des mirages. Les hommes ne sont pas dignes de votre confiance. Surtout si on vous confie dans l'homme, vous ne vous confiez pas en l'Éternel. Daniel, un des prophètes de Dieu, un des principaux ministres de l'Empire babylonien, donnait ce conseil à son empereur. Il disait à son empereur, Nebuchadnezzar, plutôt à Belshazzar, il dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés, en pratiquant la justice, et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. On est dans une société où les forts pensent qu'ils doivent écraser les faibles. On dit, c'est comme ça que l'humanité en est arrivée là. C'est la survie du plus fort. C'est l'évolution appliquée à tous les domaines de la vie. Vous avez peut-être entendu parler de Stephen Dawkins. C'est un grand scientifique britannique qui est lourdement handicapé. C'est par plusieurs équipements qu'il arrive à communiquer, écrire des livres. Mais c'est un génie. Il est très connu. Et il a dit, moi je suis évolutionniste selon Darwin jusqu'au fond de mon être. Je crois profondément à l'évolution selon Darwin. Il dit, on est arrivé de formes inférieures de vie. Mais il dit, je suis complètement anti-darwinien quand il s'agit de l'humanité. Pourquoi? Et ce monsieur, avec tous ses handicaps, il est très faible. Et normalement, c'est la survie du plus fort. On devrait débrancher ses appareils en disant, monsieur, vous êtes multi-handicapé, on va débrancher vos appareils, on va vous laisser mourir, hein. C'est les plus forts qui vont dominer, voyons, c'est l'évolution qui veut cela. Il dit, je suis anti-darwinien quand il s'agit des hommes. Il a compris les limites. Quand c'est les autres, on peut les écraser, mais si c'est moi le pauvre, moi le malheureux, moi le faible, je ne voudrais pas qu'on m'écrase, je voudrais qu'on s'occupe de moi. Ben oui, bien sûr. Et c'est ce qui donne le bonheur, c'est de s'occuper des autres, surtout ceux qui en ont besoin. Il dit, ton bonheur pourra se prolonger. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, donne son témoignage, et puis il cite une parole de Jésus qui n'est pas dans les évangiles. Voilà ce qu'il a dit. Il dit à ses amis à Éphèse, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Mes amis, ça va pour votre vie personnelle. Si nous sommes dans la pensée, qu'est-ce que les gens peuvent donner? Qu'est-ce que je peux recevoir? Avez-vous jamais vu des enfants à Noël, surtout les enfants qui sont gâtés? On leur donne 20 cadeaux. La moitié de cette montagne de jouets sous l'arbre de Noël, c'est pour eux. Et ils tombent dans ces cadeaux, ils commencent à déchirer le papier, ils sortent 1, ils sortent 2, ils sortent 3, ils sortent 10, ils sortent 15. Quand ils ont ouvert la 20e, qu'est-ce qu'ils disent? C'est tout? Il n'y en a pas d'autres? Au lieu de dire, papa, maman, 20 cadeaux, je n'en méritais pas, même 3, mais pourquoi vous avez fait toutes ces... Je ne sais pas comment, je suis confondu de reconnaissance. Pas du tout. Il y en a d'autres, où sont les autres? Il n'y a que ça. Il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça vaut aussi pour une église. Une église qui dit qu'est-ce qu'on peut donner à l'œuvre de Dieu serait une église beaucoup plus heureuse que l'église qui dit qu'est-ce qu'on peut recevoir les autres. Comment les autres peuvent-ils nous aider? Comment les autres peuvent-ils nous financer? Non, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ce monde perdu? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour d'autres églises qui sont moins loties, moins bien loties que nous? Cette idée de donner, la générosité est un des plus grands facteurs de bonheur qui existent. Je vais terminer avec ce verset de l'Épître aux Romains. C'est la clé ultime de tout bonheur, sur la terre et dans le ciel, dans l'au-delà. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Si nous pouvions, surtout les plus âgés parmi nous, les seniors comme moi, plus de 50 ans, si on pouvait faire un voyage dans notre passé, passer des dizaines d'années que nous avons vécues, et si nous pouvions rappeler notre souvenir toutes les bêtises que nous avons faites, toutes les erreurs que nous avons commises, toutes les paroles blessantes que nous avons dites, toutes les attitudes d'amertume, de critique, de méchanceté gratuite que nous avons vues en des gens qui ne le méritaient pas, tout l'esprit de jugement que nous avions eu et que nous avons entretenu à l'égard des gens qui ne méritaient pas une attitude si dure. Si nous pouvions empiler tous ces manquements que nous avons constatés tout au long de notre vie et en faire un énorme tas derrière chez nous, on ne voudrait jamais aller dans le jardin derrière. On ne voudrait jamais voir ce tas d'horreurs que nous avons faites et on dirait, c'est moi qui les ai faites. J'ai mis des dizaines d'années, mais j'ai une montagne de fautes qui m'écrase. Comment m'en débarrasser? Où est la décharge où je pourrais les mettre? Comment les faire disparaître? Personne n'en veut. Personne ne veut les stocker pour vous. C'est comme les déchets nucléaires. Personne n'en veut. C'est dangereux. Où est-ce que je pourrais stocker toutes les mauvaises choses que j'ai faites? Et David, il avait ces choses-là. Il avait des meurtres sur sa conscience. Il avait des adultères sur sa conscience. Il avait toutes sortes de choses qu'il avait faites, qui pesaient dans son âme. Mais quand il a compris que l'Éternel, le Dieu de la Bible, était prêt à effacer ses fautes et à pardonner ses transgressions et à effacer, à enlever, à déplacer, à jeter dans la mer de l'oubli tous les crimes qu'il avait commis, il a connu le plus grand bonheur que quelqu'un puisse connaître. Je suis un criminel. Je suis indigne, et pourtant, par l'amour de Dieu, je suis sauvé, je suis pardonné, je suis purifié. Dieu ne se souvient pas de mes péchés. Il les a effacés. Y a-t-il un bonheur plus grand que celui-là? Il n'y en a pas. La vraie clé du bonheur, mes amis, on est bien placés dans cette salle pour entendre parler, c'est une réelle relation avec Jésus-Christ. C'est de se tourner vers Jésus-Christ et dire, Seigneur, tu as payé pour mes péchés, tous mes péchés. Ces péchés dont je ne peux pas me défaire, ces péchés que je ne peux pas oublier, ces péchés que je ne cesse de regretter, tu en as payé le prix total par ton sang seul peut les effacer. Je viens vers toi, sauve-moi, pardonne-moi, fais de moi ton enfant, donne-moi cette vie éternelle, adopte-moi dans ta famille, comme tu l'as promis. Le Seigneur répondra à cette prière instantanément. Il vous sauvera et vous pardonnera en une seconde. Il le fera parce qu'il est venu pour cela. Il vous invite à lui si vous n'êtes pas encore sauvé. Vous êtes passé à côté du plus grand bonheur que vous puissiez connaître. Vous pouvez connaître beaucoup de bonheur dans votre existence sur la terre. Mais si vous ratiez celui-là, vous aurez raté l'essentiel. Quelqu'un a bien dit, on n'est pas prêt à vivre jusqu'à ce que l'on soit prêt à mourir. Si vous ne savez pas où vous allez passer l'éternité, comment pouvez-vous affronter demain avec tous ces risques? Oui, Jésus-Christ est un vrai sauveur. Il donne un vrai bonheur. Pour résumer, venez à Jésus-Christ alors pour le pardon de vos péchés qu'il a payé pour vous. Si vous l'avez fait, pour avoir le bonheur au quotidien, soyons généreux, donnons aux autres, c'est un facteur du bonheur. Mettons un terme à nos péchés, quand nous savons que nous vivons dans certains péchés, sachons y renoncer, dire « je ne veux plus continuer, je veux un vrai bonheur ». Profitons de la vie et de toutes ces bénédictions, sachant que toutes ces belles choses viennent de Dieu. Si vous n'êtes pas encore marié, que vous pensez vous marier, un grand facteur de bonheur, c'est vous marier dans la volonté de Dieu. Avec la personne que Dieu a préparée pour vous et recherchez sa sagesse pour faire ce choix. Un autre facteur de bonheur, c'est quand vous voyez des méchants qui prospèrent et qui réussissent et que vous ne réussissez pas quand vous pensez que vous devriez réussir. Ne pas être jaloux des méchants. Et enfin, gardez l'œil sur l'éternité et pas uniquement sur cette vie. Au contraire de Nietzsche qui disait « Oublions le passé, ne pensons pas à l'avenir, vivons le moment présent, c'est vraiment une vue myope. » Mes amis, nous avons besoin de nous souvenir de toutes les bénédictions, de toutes les bonnes choses qu'on nous a faites dans tout notre passé. C'est un facteur de bonheur. Nous avons besoin de vivre aujourd'hui dans l'obéissance, dans la volonté de Dieu. Et nous avons besoin de penser à l'éternité et de nous assurer que quand viendra la fin de cette vie, nous passerons dans la présence de Dieu parce que nous aurons reçu le Sauveur Jésus-Christ à titre personnel. C'est le bonheur, c'est ces trois choses qui sont en harmonie. Où est-ce que vous en êtes en ce qui concerne votre bonheur ? Aujourd'hui et pour l'éternité. Prions. Notre Dieu et Père, nous voulons te demander que chacun ici puisse connaître le bonheur réel et durable. Tu n'as jamais promis que nos vies seraient sans problème. Au contraire, parfois nos plus grands bonheurs sont venus suite à de terribles problèmes. Parce que nous avons ressenti ta main qui nous soutenait dans ces moments difficiles. Nous avons ressenti ton amour et ta grâce et ta miséricorde qui nous a accompagnés dans nos deuils. Mais Seigneur, le plus grand malheur serait de vivre notre vie sans toi, sans ton aide, sans ton conseil, sans ta présence, et de poursuivre une vie pour l'éternité, entièrement privée de toi, dans ce lieu de tourment dont tu nous as parlé. Seigneur, si quelqu'un ici ne te connaît pas, je te prie qu'il se tourne vers toi aujourd'hui et qu'il dise dans toute simplicité, Seigneur Jésus, je suis un pauvre pécheur. Je viens à toi. Sauve-moi. Je vois mes péchés. Je ne pourrai jamais les effacer. Je ne pourrai jamais les enlever. Je voudrais que toi, tu le fasses par ton sang, que tu me purifies, que tu me pardonnes, que tu deviennes mon sauveur. Je veux vivre avec toi. Je veux que tu vives ta vie en moi. Je veux connaître ce bonheur de que mes péchés sont effacés et pardonnés. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui dirait, alors que vos yeux sont fermés, vous réfléchissez, vous dites, écoutez, de toute ma vie, je n'ai jamais, jamais demandé à Jésus-Christ de me sauver. Si c'est bien ça qu'il faut faire, je suis prêt à le faire aujourd'hui. Je veux que le Seigneur Jésus me pardonne et me purifie. J'ai besoin de son aide dans ma vie tous les jours. J'ai besoin de son pardon pour mon passé. J'ai besoin de sa direction pour mon avenir. J'ai besoin de Jésus. Et je le dis honnêtement et je le montre. Je vous invite à lever votre main, bien franchement, et à la baisser pour indiquer « J'ai besoin de Jésus-Christ ». De ma vie, je n'ai jamais demandé à Christ de me sauver ou de me pardonner, mais je veux le faire aujourd'hui. Votre main levée et baissée signalera, j'ai pris cette décision aujourd'hui, je veux recevoir Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui lève sa main et qui la baisse, montrant, c'est mon besoin, je prierai pour vous, je ne mentionnerai pas votre nom, je ne le connais peut-être pas, mais je prierai pour vous. Oui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et y a-t-il quelqu'un d'autre? Je lève ma main en toute franchise. J'ai besoin de Jésus. Je veux être sauvé. Y a-t-il une troisième personne? Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ton salut merveilleux. Merci pour ces deux mains levées indiquant des personnes qui veulent te recevoir comme sauveur. Merci pour leur franchise et pour leur humilité. Et nous te prions de répondre aujourd'hui et maintenant à leur requête selon ta promesse. Merci parce que tu as dit, je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Nous avons donc la promesse que ces deux personnes connaîtront aujourd'hui même ton salut et ton pardon. Veuille donc les bénir et tous ceux qui ont assisté à ces instants d'adoration par Jésus-Christ. Amen.
Merci Seigneur pour la parole. Il y a un verset dans